Pas d'affolement. Nous voilà. Pas d'affolement, chérie.
Nous voilà.
Pas d'affolement.
Nous voilà.
Bonjour et bienvenue à vous auditeurs de Radio Entre-deux-Mers 98.4 pour l'émission Pas d'affolement nous voilà, comme tous les jeudis. Et aujourd'hui, nous avons certaines personnes qui sont dans le studio, nous allons les présenter, ces personnes.
Jean-Louis, Azedine, Joseph, Brigitte, Nathalie, Jean-Louis, Valérie, Philippe, Marie, Béatrice, Christelle. Je vous rappelle que c'est notre 46e émission.
Et aujourd'hui, les présenter comme invités, Johanna et Anaïs des ateliers à ciel ouvert.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Johanna et Anaïs.
Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre association à ciel ouvert ?
Alors, l'association Les Ateliers à ciel ouvert réalise des films et elle propose des expériences de création artistique participative avec différentes personnes qui ont plus ou moins l'habitude d'avoir une pratique artistique. Voilà, il y a en général deux dimensions, artistique et on peut dire aussi sociale, parce qu'un des objectifs, c'est aussi de provoquer de la rencontre.
Alors, quelles sont vos professions à chacune et comment vous êtes associés ? Vous êtes associé, en fait, vous êtes devenu associé. De quelle façon vous êtes-vous associé ?
Comment avez-vous monté l'association Les Ateliers à Ciel Ouvert ?
Alors, Les Ateliers à Ciel Ouvert est une association qui a été créée en 2014 par deux personnes, Benoît Lagaric, qui n'est pas là, et moi-même. On avait envie de créer un espace où les gens puissent s'exprimer par le biais du médium artistique et notamment de la vidéo. Et pour ce qui est de la rencontre à Anaïs, elle est arrivée un petit peu plus tard. On a collaboré sur un premier projet de réalisation filmique à Saint-Médard-en-Jalles, dans un quartier. Voilà, je vais la laisser se présenter peut-être.
Oui, Anaïs, c'est vrai que j'ai rencontré Johanna et Benoît sur ce premier projet de film à Saint-Médard-en-Jalles. Et on a continué à travailler ensemble sur le projet à Cadillac, voilà. Moi, je viens plus du théâtre. Voilà, je suis comédienne et metteur en scène.
Oui, spécialisée dans le théâtre, oui, surtout. Et les textes aussi, je crois.
Les textes, voilà, j'écris aussi, effectivement.
D'où êtes-vous originaire ?
Alors, pour ma part, je suis originaire du Pays Basque.
Et moi, je viens d'Angers.
Et Benoît est né en Corrèze.
Ah, bah, c'est bien.
Avez-vous un autre métier en parallèle ?
Non. Après, on est assez polyvalent, c'est-à-dire que nous, on est plutôt dans la réalisation de films, mais on est une toute petite structure, donc on est aussi amené à faire de l'administratif, à rechercher des financements, à écrire des dossiers. Et puis parfois, on fait du film, mais parfois aussi, on fait que du son et parfois un peu de photo.
Alors pourquoi vous êtes adressé à l'hôpital de Cadillac spécifiquement ?
Alors, on s'est adressé à l'hôpital de Cadillac initialement. Je vais recontextualiser le projet. C'était un projet qui s'appelait au début Lieu commun. Et on avait envie de proposer une réalisation artistique à la commune de Cadillac. Donc c'était pas seulement l'hôpital. C'est pour ça qu'au début, il y avait la résidence pour personnes âgées, le collège, la MDSI, le GM Entracte, le centre de jour, donc l'hôpital de Cadillac, et peut-être que j'oublie des gens.
Je crois pas.
Voilà, donc c'était... Et les habitants.
Ah oui.
Et les autres habitants. Donc c'était vraiment essayer de créer du lien et une dynamique, et un mouvement.
Il y a même eu le conseil municipal qui a un peu participé aussi.
Bah, disons que le conseil municipal a été à notre écoute quand on a proposé le projet, et ils ont accepté de suite qu'on puisse investir aussi la ville, parce que le projet il a duré quand même 2 ans et demi, voilà, entre les premiers ateliers et puis la réalisation filmique. Mais quand on a proposé, c'est le point de départ, c'est vrai que c'est Michel Almandou à l'époque au pôle culturel qui nous a sollicité. Il voulait que les ateliers à ciel ouvert fassent un projet avec l'hôpital. Et nous, il nous semblait intéressant d'ouvrir. C'est-à-dire que ça soit avec les gens de l'hôpital, mais aussi avec la cité. C'est-à-dire
faire une synthèse entre tout le monde.
Ouais.
Je crois que vous avez voulu mettre les gens en confrontation entre eux-mêmes.
Ouais. En rencontre, confrontation, on peut parler de rencontre peut-être plutôt.
De rencontre,
ouais. C'était ça l'idée, oui. Ouais.
Par exemple, les patients avec les habitants de Cadillac,
ouais.
Le collège.
Oui.
C'était votre but aussi.
Oui, l'envie, c'était aussi de venir questionner les représentations de part et d'autre. Parce qu'il y en a chez tout le monde, des représentations. Et vu qu'à Cadillac, effectivement, il y a une particularité et une richesse, qui est celle qui est l'hôpital au cœur de la ville. On trouvait ça intéressant, parce que vraiment, il y avait une proximité. Bon, voilà.
Je sais pas, mais c'est très, très, très clair, très, très compréhensible, en tout cas.
Pourquoi faites-vous ce métier ?
Pourquoi tu fais ce métier, toi, Anaïs ?
Alors, ce métier, bah, en fait, je trouve que c'est plutôt une chance de pouvoir faire ce métier, c'est-à-dire de faire ce qu'on aime. D'être à la fois... c'est un métier particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de routine. On s'ennuie jamais, puisque du coup, on est souvent sur plein de projets différents. Donc, on rencontre plein de personnes différentes. Et voilà.
Une passion, enfin, une passion.
Ouais, tout à fait.
Pour Johanna aussi, c'est une passion.
Oui, on peut dire que... En tout cas, c'est... Ouais.
Eh bien, nous, on est passionnés aussi. On va vous présenter un reportage que j'ai fait alors, sur le groupe d'entraide mutuelle de Langon. Et alors, c'est une aide pour les personnes isolées, en psychiatrie ou pas, handicapées ou pas, mais une aide. La voici. Je suis au GEM de Langon avec Cécile, l'animatrice, et 2 adhérents membres du bureau, Xavier et Géraldine. Alors je vais les interviewer pour savoir ce qu'ils font au GEM, qui est ouvert de quoi depuis le mois de novembre. Cécile, vous, l'animatrice.
Bonjour, oui, je suis Cécile. Donc, je suis animatrice au GEM L'Amitié de Langon depuis le 3 décembre. Donc c'est un GEM qui a été...
Il n'y a pas beaucoup de monde au début, hein.
Au départ, non, parce que ça a été ouvert vraiment le 3 décembre. Enfin, ça a commencé à être ouvert en octobre-novembre, par les animateurs du GEM de Cadillac. Nous sommes pour l'instant la même association, l'association Entracte, qui a un GEM à Cadillac. Et un deuxième GEM a été ouvert à Langon.
Et justement, alors ça marche, puisque au départ, j'y étais où il n'était que 3 pelés et 1 tondu, j'ai envie de dire. Et puis, et alors, en fin de compte, ça s'est agrandi. Et vous êtes combien d'adhérents vous êtes ?
Eh bien, au bout de 5 mois, là, il y a 22 adhérents pour l'instant. Donc, ça a effectivement bien grandi en quelques mois.
Alors, vous avez monté un bureau, comme toute association ?
Oui, tout à fait, mais c'est plutôt... En fait, c'est l'association Entracte. Nous avons fait une assemblée générale pour inclure le GEM de Langon et qu'il y ait des membres de Langon qui soient administrateurs de l'association.
Et alors, qu'est-ce que vous y faites à ce GEM ? C'est comme Kadia, qu'il y a beaucoup d'activités. Et alors, alors, Géraldine et Xavier, qui sont avec nous, vont nous parler. Qu'est-ce que vous faites, vous, ici, au GEM, Xavier ?
Ben, on fait... Bonjour déjà, Xavier. Si. Et donc, on fait des repas, on fait des activités, il y a l'art plastique aussi, il y a l'informatique que j'anime également. Donc,
Et vous êtes trésorier, vous occupez au bureau de la trésorerie. Alors la trésorerie, ça marche par subvention. Alors vous pouvez parler de ça, il faut faire des choses pour les mériter ces subventions.
Oui, tout à fait, oui, effectivement, oui, ça marche par subvention, qui s'appelle d'ailleurs l'ARS. Effectivement, oui, il y a pas mal de choses à y faire, oui. Et donc, je suis vice-trésorier, effectivement, de Langon.
Et alors, Géraldine, elle est secrétaire ?
Bonjour, bah oui, moi je suis la secrétaire et adhérente aussi du GEM de l'Amitié de Langon. Et voilà, donc moi je fais la partie administrative avec Cécile, nous sommes en binôme et voilà, on fait bien nos devoirs.
Et alors il y a une bonne convivialité, Cécile, il y a une bonne entente de tout le monde. Moi j'y suis depuis le début et j'ai pas encore vu un seul clash.
Clash ? Non, moi non plus, j'ai pas vu de clash. Il peut y avoir quelques petites remises en question, quelques petites discussions, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, c'est normal. Les adhérents sont chacun ce qu'ils sont, et avec leurs idées et leur parcours de vie. Mais il y a une très bonne ambiance, une très bonne entente entre les adhérents, et une entraide qui se développe et qui est, je trouve, qui est formidable ici, vraiment.
Pour éviter l'isolement, surtout.
Oui, beaucoup de personnes viennent parce qu'elles sont très seules et qu'elles ont besoin de rencontrer d'autres personnes et discuter, partager les repas, des sorties, des activités, plein de choses.
Alors, on ne peut pas dire que c'est de l'assistanat, c'est de l'entraide. Il faut bien préciser cela. C'est de l'entraide plus que de l'assistanat.
Mais le GEM, le principe du GEM, c'est que les adhérents eux-mêmes font vivre leur association. Donc moi, je suis là pour aider, soutenir, être présente, mais les adhérents eux-mêmes s'entraident pour arriver à ce qu'ils veulent faire, des sorties, un repas, un gâteau, voilà, tout ça. Ils s'entraident. C'est vraiment le maître mot du GEM.
Alors vous avez une réunion tous les mois, je crois.
Oui, la réunion mensuelle pour pouvoir partager, enfin parler de tous les points qu'il y a à voir sur l'organisation, sur le fonctionnement. Enfin, Géraldine dirait encore mieux que moi là-dessus, puisqu'elle, en tant que vice-secrétaire, elle est très très au point là-dessus.
Donc, on va l'interroger, Géraldine, justement. Que pensez-vous de cette réunion ?
Alors effectivement, la réunion est très instructive dans le sens où nous avons un tableau dans la salle d'accueil. Donc nous mettons l'ordre du jour, les idées qui peuvent, des idées sur des thèmes qui peuvent être abordés lors des réunions mensuelles. Après, on les classe par ordre de priorité, donc soit sur le fonctionnement de l'association, sur les groupes de projets quand il y a des sorties, des repas ou des voyages organisés. Et en réunion, nous en discutons. Nous prenons des notes. Donc, un des adhérents se propose de prendre des notes avec moi. Et du coup, il y a un compte-rendu qui est établi à la fin, après la réunion, qui est disponible sur ce fameux tableau blanc que tout le monde peut lire, ou alors on peut leur expliquer ou les aider à lire le compte-rendu. Voilà.
Et alors, vous voulez, j'ai ouï dire, enfin, mais c'est pas j'ai ouï dire, j'en suis sûr, vous voulez prendre votre indépendance par rapport au GEM de Cadillac. Parlez-nous-en. Qui se dévoue ?
Xavier, peut-être.
Alors, oui, effectivement, il y a cette volonté-là quelque part, mais c'est surtout dans un premier temps déjà pouvoir être à l'aise dans les fonctions, et puis effectivement après de pouvoir s'écarter un petit peu, de prendre tout simplement un envol, et d'avoir également finalement une ligne un petit peu à suivre, et prendre notre indépendance, et être comme on est.
Avoir un but en fait, un but cohérent.
Tout en ayant d'abord au fil du temps les reins solides pour pouvoir prendre son envol, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. On a tous, au niveau des administrateurs de Langon, on a tous une fonction qui demande du temps, et donc on apprend des choses parce que pour certains c'est nouveau, et du coup pour pouvoir prendre notre envol, on a des choses à apprendre, et surtout avoir les reins solides pour ne pas tomber. Voilà,
des bonnes fondations. Et vous, alors, Cécile, vous êtes toute seule à faire ce travail, et c'est pas dur au départ, ça devait être un peu un challenge pour vous.
Oui, on peut dire que c'était un challenge, mais très enthousiasmant, parce que débuter comme ça, il y a plein de choses à faire, tout est à faire, ça peut aller d'installer le lave-vaisselle, à effectivement travailler sur la trésorerie, à accueillir les gens, parler, expliquer, faire de la publicité, donc c'est très riche comme travail, et très enthousiasmant, vraiment, c'était très positif.
Merci Cécile, Xavier et Géraldine. À la prochaine fois, on peut-être un autre reportage. Merci.
Merci.
Et maintenant, une petite pause musicale avec Jean-Jacques Goldman, Il suffira d'un signe, proposé par Nathalie.
Et nous revoilà pour une présentation d'un texte de Christine du nom de L'Oiseau.
L'oiseau, va-t-il être libre ou rester enfermé dans sa cage? Moi, je suis une mouette qui survole l'océan pour attraper des poissons. Pour survivre maintenant, il faut se battre sur tous les fronts. Que ça soit pour évoluer, pour diriger nos ailes, pour se défendre contre d'autres qui sont plus gros que nous. Vous savez, sur Terre, on est petit. Un jour, on est là et le lendemain, on prend une autre direction. On doit être là pour nicher ces petits. Je ne vous ai pas dit, mais j'ai une petite fille de 7 ans. Quelle délicatesse de pouvoir être avec les siens. Quel entêtement d'être bloqué sur une digue. Vas-tu t'en sortir, Christine, de l'hôpital? C'est ma voix qui résonne dans tout l'univers. Dégarpir, petit ange, fruit de ta vie. Oui, la cicatrice. Le jour où j'ai l'intention de sortir, je viendrai vous voir à la radio pour vous donner un interview pour fêter ça, la victoire que j'attends depuis longtemps, cet appartement que je rêve. En attendant, je me reconstruis, même si c'est difficile parfois, j'ai l'impression que ça va m'apporter ses fruits. Il faut surtout pas perdre confiance en soi, même si parfois on en aura le bol quotidien. Dernière phrase que j'ai écrite pour vous, la vie est devant nous, le ciel nous dégage de nos peurs et de nos joies.
Voilà, c'est un très beau texte de Christine. Et ben moi aussi, j'ai fait un beau texte. Enfin, on va voir. Je vais vous conter mes vacances à Biscarrosse, comme tous les ans. Nous partons la fleur au fusil avec ma fiancée pour des vacances qui, si elles débutent par un mauvais temps, sera ensoleillée par la suite, pour la météo. Nous sommes soucieux, car notre ami glacier est-il encore là? N'a-t-il pas été ruiné par une année d'absence? La première chose que nous faisons en arrivant est d'aller à son échoppe. Là, il nous reconnaît et s'écrie « Vous êtes là enfin !» Comme de tradition, nous lui commandons deux superbes glaces à la vanille italienne qui, à coup sûr, le sauveront de la ruine. Les jours passent. Nous faisons un tour à l'océan où je m'exerce avec brio au surf. Bon, c'est un peu d'humour. Hein. Pendant que ma fiancée bronze à qui mieux mieux. Quelques restos agrémentent les vacances qui seraient réellement parfaites sans un petit tour au casino où qu'un quart, nous gagnons puis perdons. Nous rentrons enfin vers les studios après ces vacances bien méritées. Voilà. Eh bien, moi, j'ai bien mérité de vous proposer un beau reportage sur la danse africaine que nous allons écouter maintenant. Allez, Francis, la danse africaine.
Je suis avec Lamine, alors qui dirige toute cette danse. Qu'est-ce que vous en retirez et pourquoi cette danse?
Alors, cette danse, c'est avec plaisir, d'un partage de ma culture. Donc c'est pour ça que je fais cette partage avec tous ces mondes qui sont là.
Et beaucoup de travail en amont pour faire ça?
Alors, beaucoup de travail, oui. Ça fait 9 mois maintenant, on est sur le travail. Ça se passe très 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 bien. Donc c'est pour ça qu'on se présente devant le monde aujourd'hui.
Et c'est au bénéfice d'une association alors?
Alors, l'association, la bénéfice, c'est pas moi. Le bénéfice...
Oui, j'en doute, mais...
Hein?
Mais c'est pas oui.
Voilà, donc c'est pour les enfants défavorisés en Afrique.
C'est bien.
Dans mon quartier. Donc tout là, ce que moi je fais, c'est l'argent, ça va là-bas.
Et alors, vous avez d'autres danseurs que l'hôpital?
Oui, j'en ai 4 danseurs, 4 cours différents. Donc, alors, il y a l'hôpital, il y a Samaker, il y a Gabarnak, il y a Seno et il y a Langon. Donc il y en a 5 en plus.
Beaucoup de travail et beaucoup de sport aussi.
Beaucoup de travail, beaucoup de sport.
Et de musique.
Et voilà, et de musique aussi.
Merci l'ami.
Merci à vous. Merci.
Avec Sibyl, alors vous avez fait cette danse, qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme d'habitude?
Ben ça m'a changé, pas vraiment comme d'habitude, parce que c'était un peu le début de la répétition, mais ça me changeait pas trop de niveau technique de danse, mais sinon il y a eu une bonne ambiance, c'est ça qui changeait surtout.
Vous avez bien travaillé, répété tout ça?
également et je crois qu'on a bien travaillé durant un an.
Tout en rythme.
Tout en rythme et tout. On était trop contents de nos cours. Il y avait vraiment du travail, quoi. On a été très contents d'être ensemble.
Merci, Sybille.
Merci, Philippe.
Alors, je suis avec le percussionniste, alors vous occupez spécialement de musique.
Oui, moi je me présente d'abord, je m'appelle Sanou Issouf, artiste, musicien, danseur. Oui, moi je m'occupe de l'atelier percussion, avec un peu de chant aussi, quoi.
Vous pouvez être bien rythmé avec la danse, il y a beaucoup de travail aussi.
Oui, justement, il y a beaucoup de travail, mais les personnes intéressées, ils sont bien attachés, ils se sont bien donnés à fond. Donc, il n'y a pas eu tant de difficultés, quoi.
Ils ont beaucoup progressé, alors, oui?
Oui, je dirais oui, ouais, parce que le premier jour jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Donc, ils sont bien motivés et moi, ça me pousse à donner plus aussi.
L'émulation.
Je suis super content.
Merci, monsieur.
Merci à vous. Oui.
Je suis avec Jacques, alors vous avez fait le djembé.
Le djembé, ça fait avec tout, pas combien que ça fait. On joue bien le djembé, tout le monde apprend le djembé. Joue, tout le monde apprend, là il vaut, tout ça, la danse, les gens, tout ça. On danse bien, on s'amuse bien, on est content, on est heureux, tous.
À renouveler.
À renouveler, à tout le monde.
Avec Karine qui fait de la danse. Alors Karine, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi j'en pense que c'est très très bien ce qu'on fait avec, avec les percussions. Ça nous défoule, ça nous détend un peu, ça repose bien pour la tête et ça fait hyper du bien ce qu'on fait.
Ça nettoie la tête.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Et le djembé, au moins, ça concentre sur un truc qu'on fait. On pense plus à droite, à gauche, à faire des bêtises comme ça.
Et vous
Michael,
oui, on se connaît un peu. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Vous avez dansé, vous?
J'ai dansé.
Percussionniste.
Oui, c'est ça, monsieur. J'ai fait du tambour. Je sens plus que c'est à l'aise pour moi. Et chaque fois que je demande d'être espace dans la musique, je suis fort en toute constance.
Vous êtes très bien, Michael. Bonne utilisation. Je suis avec Kassim. Alors Kassim, quel est votre rôle dans le spectacle?
Dans le spectacle, je suis un musicien. Je fais la musique et je suis un danseur aussi. Et du coup, je fais un peu de clown un peu.
Oui, ça a l'air. Et alors, vous faites depuis combien de temps vous faites de la musique?
Depuis à Bazas, quand je dis depuis à Bazas, c'est quand j'étais tout petit, tu vois. J'étais tout petit, j'étais parmi les musiciens. Et du coup, la musique, c'est venu comme ça. Mais apparemment, si je me rappelle bien, mon père, il est musicien. Et ma mère aussi, elle était musicien. Donc, je suis né dans la famille musicien.
Bien. C'est du latavisme.
Ouais.
Très bien. Merci, Cassine.
Mais ça fait plaisir. Là,
Sylvie qui a regardé les activités de danse.
C'est très bien.
Voilà, mais tout est résumé.
Eh oui, nous avons assisté au reportage de Philippe. Maintenant, nous vous retrouvons à nouveau dans nos studios de Radio Entre-deux-Mers, 98.4, pour l'émission Pas d'affolement, nous voilà. Et nous avons aujourd'hui encore deux nouvelles invitées, je devrais dire, Johanna et Anaïs, des ateliers à ciel ouvert. Brigitte, avez-vous une question à poser à Johanna et Anaïs?
Oui, je voudrais savoir comment l'idée, comment vous avez pu choisir cette idée sur le sujet du duc d'Épernon et qui est le duc d'Épernon?
Eh bien, le duc d'Épernon, en fait, comme on a fait un film voilà, à Cadillac, on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté du duc d'Épernon puisque c'est quand même une figure emblématique de la ville. Voilà. Y a le château, par exemple, à Cadillac. Et le duc d'Épernon, donc c'est l'époque d'Henri IV, c'est ça. Et c'est donc, pour nous, ça incarnait un peu la figure du pouvoir. Et on s'est dit, OK, comment s'emparer de cette figure-là voilà.
C'est un très grand personnage de l'histoire.
Très connu. Très grand personnage de l'histoire.
Et qu'est-ce qui vous a influencé, justement, le duc d'Épernon?
En fait,
parce que moi, j'ai pas vu votre.
Alors, il n'est pas encore. On l'a pas. À vrai dire, on a fini le tournage, mais on n'a pas fait encore le montage.
Ah.
Donc, vous le verrez entre la mi-décembre ou, au pire des cas, début janvier, au cinéma Luxe à Cadillac. Alors, comment on a travaillé? Il y a eu des ateliers de pratique artistique avec chacun des participants. Donc, Anaïs a fait beaucoup d'ateliers théâtre. On a travaillé aussi avec Émilie Fenouillat, qui est graphiste et plasticienne. Et puis nous avec Benoît on a plutôt travaillé autour de la vidéo et ensemble ensuite on a essayé de construire un scénario, donc on a essayé d'inventer des histoires et souvent il y a eu la dimension de film historique, je crois aussi parce que beaucoup avaient envie de travailler avec, autour de films d'époque avec des costumes et c'est vrai comme l'a dit Anaïs, à Cadillac il y a une histoire assez prégnante, notamment celle du château qui a été construit en tout cas agrandi par le duc d'Épernon. Voilà.
Dans quel but faites-vous ce projet?
Alors, dans quel but on a fait ce projet?
Ben, le but premier, je pense que c'était la rencontre, en tout cas.
Oui.
Oui.
Et puis vivre, proposer des outils d'expression, les outils de...
Ouais, se rencontrer autour de différents outils artistiques, prendre la parole, inventer, créer.
Imaginer, voilà. Parce qu'on se rend compte que souvent, par le biais de créations collectives, bah ça favorise les échanges et la rencontre. Que quand même, on a besoin de ça tout le temps, mais en ce moment encore plus, je crois.
Combien de temps a duré la préparation du tournage?
Ce projet, alors...
Sur 2 ans à peu près.
Ouais, on va dire sur 2 ans. Après, c'est des projets qui demandent du temps pour les penser, pour rencontrer les gens, pour trouver l'argent, pour mettre en lien les personnes qui vont participer. À vrai dire, ça a été un chemin assez sinueux. Après, le moment où on a commencé à écrire le film tous ensemble...
Ça a été rapide.
Ben, entre l'écriture et le tournage, il y a eu un peu moins d'un an. Hein.
Ouais, plutôt.
Donc, en moyenne, en tout, combien?
En tout, on va dire 2 ans.
Deux ans.
Voilà, je voulais vous demander aussi si c'était difficile de trouver des participants.
Alors, ce qui a été difficile, c'était surtout de trouver des habitants de Cadillac pour participer au film. Et du coup, ça, justement, on a fait un appel à figuration. Et c'était assez intéressant parce que du coup, on a eu plein de réponses. On a envoyé une sorte de mail d'annonce, voilà, qui a été. Et du coup, on a eu plus de 100 ou 200 réponses, je crois, à ce mail.
En fait, c'était un appel à figuration comme un appel à casting. Et on a décidé que ça faisait partie du film, c'est-à-dire que ça a été filmé. Parce que le film, c'est l'histoire d'un réalisateur qui veut faire un film historique sur le duc d'Épernon et qui a du mal à le faire. Du coup, ce moment où on a rencontré les volontaires, c'est où ça va être aussi dans le film. Voilà.
Et on m'a dit que le réalisateur voulait Claudia Cardinal. C'est vrai?
Oui.
Tout à fait. Claudia Cardinal jeune, ce qui est donc un peu mission impossible. Mais...
Quels critères de recrutement avez-vous utilisés?
De recrutement, c'est-à-dire
Avez-vous des critères sur les personnes à respecter? Pour le résultat, pour les premiers rôles, quoi. Ouais.
Il fallait avoir beaucoup de désir de faire ce film.
C'était
la motivation. C'était un film qui était ouvert à tout le monde. Après, pour ce qui est des personnages qu'on pourrait dire principaux, Ça s'est dessiné selon ce qu'étaient les gens et ce qui collait le plus au profil des personnages, mais on a construit les personnages en fonction des gens qui avaient envie de les jouer aussi. C'était un aller-retour, quoi.
Est-il difficile de travailler avec des acteurs amateurs ?
Eh bien, moi, je dirais que non. Voilà, parce que justement, les acteurs amateurs, du coup, comme ils ne connaissent pas, eh bien, du coup, ils sont assez surprenants. Ils sont plein de fraîcheur. Et du coup, l'idée, c'est surtout de créer des dispositifs de mise en jeu qui permettent à des non-acteurs de jouer sans forcément, parfois...
Et c'est là votre rôle.
Et ouais, voilà, c'est ça. Moi, du coup, j'étais missionnée là-dessus. Essayer de mettre en jeu des non-acteurs, quoi. Voilà.
Il y a une particularité, c'est que Anaïs, qui était aussi à l'écriture du film, elle était aussi comédienne dans le film. Ah. Donc elle a joué, c'était aussi un moyen de soutenir les gens dans le jeu.
Voilà.
Voilà, et puis je voulais savoir si les costumes étaient confectionnés par vous-même.
Bon alors ça, Brigitte, vous pourriez répondre. Hein.
On ne le dira pas, mais Brigitte a été costumière.
Eh oui. Brigitte, vous avez participé à cette expérience-là, et notamment autour du costume.
Pouvez-vous nous en parler, Brigitte ?
Bien, le rôle des costumières, ce sont des gens qui font des costumes anciens ou d'époque, comme ça, et c'est cousu normalement à la main. Après, il y a les essayages, après, il y a les habilleuses, tout ça.
Et oui.
Mais les costumières, c'est souvent ceux qui font les costumes.
Et oui. Et vous nous avez aidé, vous étiez le personnage de la costumière dans le film, mais vous nous avez aidé aussi vraiment pour de vrai à aller les chercher.
Voilà.
On a emprunté des, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a emprunté des costumes
à Saint-Nazaire.
Exactement. Voilà. Une association qui s'appelle Les Médiévales qui nous a loué des costumes. Il y a eu aussi une autre association, la Compagnie des Figures à Bordeaux, et puis une compagnie même. Et puis
le relais à Bordeaux.
Ah oui, il y a le relais, la structure le relais. Et puis aussi Brigitte, quand même, vous avez œuvré au Centre de jour et au GEM en fabriquant des collerettes pour les personnages de Duc. Vous avez fabriqué des collerettes.
Oui.
Merci.
Maintenant, nous allons écouter un jeune rappeur, Azedine, alias Azor Criminel. Il nous chante « Ma vie ».
Ne me jetez pas la pierre car vous n'êtes pas moi. Rappelez-vous hier quand vous vous moquiez de moi. Sachez que je suis plus fort que vous le pensez. Mon âme ainsi que mon cœur sont déterminés. Je me bats tous les jours pour rattraper mon retard. Pas si simple avancer quand la vie divise en couloirs. Entre le bien et le mal, que dois choisir? Mon Dieu, j'ai besoin de toi, croyant montre-moi l'avenir. Hier car je suis Azor, presse des rimes à la voix d'or. Longue canine, est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il dort? Et si j'en suis là? C'est grâce à vous tous, directeur, éducateur, vous n'avez pas manqué de souffle du fond du cœur. Merci à tous. Dans ma vie, j'ai accumulé les erreurs peu convenant, mais trop souvent, je semais la terreur. Dans ma vie, énervée, angoissée et susceptible, pourquoi tant de pression dans mon cerveau fragile? Car dans ma vie, je n'ai pas toujours été cet enfant violent aux humeurs controversées. Avant de taper, j'étais tapé, avant de clasher, j'ai été clashé. Pourquoi cette réaction incontrôlable? Pourquoi porter ce masque qui me protège, mais me rend malade? Azor criminel dans les packs.
Merci à Zedine qui est lui-même aujourd'hui dans nos studios. Peut-être viendra-t-il nous faire un petit coucou. Son nom de rap, je vous le rappelle, est Azor Criminel. Et il nous chantait « Ma vie ». Maintenant, je voudrais en venir à un reportage que j'ai fait avec Brigitte. C'est plutôt sur Brigitte, en réalité, pour une de ses passions. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous recevons Brigitte pour vous faire part de sa passion du tricot. Brigitte, quand est née cette passion du tricot ?
Eh bien, déjà, chez mes nourrices, il y a une voisine qui est venue, parce qu'étant petite, avec des plumes d'oie, j'essayais de tricoter, et je ne savais pas, et cette dame, elle m'a montré comment on fait du tricot. Et elle m'a appris les mailles. Alors, je faisais des fois du tricot, mais ça faisait comme des robes en forme. Et après, à l'école ménagère, j'ai appris à faire des petits carrés de tricot pour apprendre les points.
Qu'est-ce que c'est que l'école ménagère ?
L'école ménagère, c'est une école pour apprendre la couture, la cuisine, le ménage, le français, le calcul, tout à la base.
Et une maille, comment se conçoit une maille ?
Une maille, on peut la faire en deux façons, soit la suisse ou soit normale.
C'est-à-dire un point simple ?
Un point simple, c'est quand on prend un nœud et puis qu'on fait comme ça avec le pouce.
Quand on entoure le fil autour de l'aiguille.
Voilà, et on met comme ça, comme ça. C'est le point simple.
Et on enroule avec le pouce.
Voilà. Et le point à suisse, c'est de mettre un nœud à une aiguille à gauche et de l'aiguille droite, de tricoter la maille et ainsi de refaire comme ça, de recontinuer les mailles.
Et ça, tout le long d'une ligne.
Voilà, oui.
Et les torsades ?
Je ne sais pas les faire.
Ah. Et... que pouvez-vous nous dire en plus de la laine et du tricot ?
Bien, la laine, déjà pour les aiguilles, il faut de la laine qui se rapporte au numéro des aiguilles.
Et quel type de vêtements tricotez-vous ?
Oh, pour les enfants, j'ai fait des petits gilets, des petits bermudas, des petits trucs comme ça. Pour mon mari, j'ai fait des pulls aussi.
Et avez-vous des petits-enfants ?
Oui, mais quand je tricote, ils ne le mettent pas.
Ah, quel dommage. J'ai vu ce que vous faites, c'est très joli en tout cas. Et en dehors du tricot, avez-vous une passion ?
Ben, je fais aussi des perles à enfiler. Je fais des colliers simples. Nadine, elle m'a appris à faire des bracelets avec les perles qui se croisent. Et maintenant, j'ai vu à la télé, pour faire des colliers, un collier dans une pub, c'était comme une broche, et les trois fils étaient mis de chaque côté sur le même maillon, ce qui fait les trois rangs du collier. Et
avez-vous fait du crochet ?
Oui, aussi, j'ai appris toute seule le crochet.
Toute seule ?
Oui.
Comment ?
J'étais à Carcosse, je faisais une maille, après j'ai monté, et puis après j'ai fait ça. Puis je me suis fait ma première veste au crochet.
Ah, vous êtes très hardie de vos mains.
Voilà.
Avez-vous quelque chose d'autre à nous dire ?
Et à la couture aussi, également. On a appris la couture à l'école ménagère, on faisait des petites brassières, tout ça, des vêtements. Et on s'est fait des robes, tout ça. Et à Carcosse, quand j'étais à Carcosse, que les enfants étaient petits, je m'étais fait une robe d'hiver, mais j'avais copié sur une robe. Par exemple, vous plaisez cette robe, vous la faire en hiver, il faut que vous preniez bien le modèle et vous découpez à 5 cm autour pour les coutures. Et vous reproduisez le modèle.
J'ai vu, vous changez souvent de robe. Est-ce vous qui les faites ?
J'achète aussi, puis j'en réforme.
Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Avez-vous autre chose à rajouter ? Une dédicace à quelqu'un ?
Ben, à tout le monde.
Se mettre au tricot.
Se mettre au tricot, au crochet, ou aux perles, ou aux perles à main aussi, j'aime bien faire. Tout ça.
Merci Brigitte. Au revoir.
Au revoir.
Et maintenant, je vais vous parler du roi de la moto, Agostini Giscano, qui a 77 ans, surnommé le roi Ago. C'est le champion le plus titré de l'histoire de la moto, parce qu'il courait dans deux catégories différentes dans le même week-end, en 350 et 500 cm3 avec MV Agusta et Yamaha.
7 titres de champion du monde en 350 de 1968 à 1973 sur MV Agusta et en 1974 sur Yamaha. 8 titres de champion du monde en 500 de 1966 à 1972 sur MV Agusta et 75 Yamaha. C'est un record historique. Il a 311 victoires, dont 123 en Grand Prix, 68 en 500, 54 en 350 et une en 750. Il a gagné 10 fois le Tourist Trophée et détient aussi le record du meilleur tour en course. Seul Valentino Rossi a réussi à battre son record.
Voici maintenant la pause musicale sur les enfoirés et qui sont proposés par Sylviane, que nous faisons de la part de tout le monde un petit coucou.
Mille avant nous ont voulu laisser leurs traces, ils s'en sont vus déçus. De belles âmes que le temps efface, Dieu j'en ai connu.
On veut avancer seul, mais on ne va jamais loin. Suffirait qu'on le veuille pour aimer nos voisins.
C'est pas la mer à boire, pas l'océan non plus. Pour dessiner l'histoire, il faut nos mains tenues.
Chanter dans les campagnes et danser dans les rues. Demain, demain, on gagne. Demain, nos mains tenues.
On trace, trace, on trace, trace, on trace, trace, on trace, trace.
Mille avant nous ont voulu laisser leur marque et mille ont échoué. Pourquoi penser qu'on peut mener sa barque sans se faire aider?
On veut avancer seul, mais on ne va jamais loin. Aux amis qui en veulent, impossible n'est rien.
C'est pas la mer à boire, pas l'océan non plus. Pour dessiner l'histoire, il faut nos mains tenues.
Chanter dans les campagnes et danser dans les rues. Demain, demain, on gagne. Demain, nos mains tenues.
On trace, trace, on trace, trace, on trace, trace, on trace, trace. Ensemble, ensemble, tout simplement. 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 Ensemble, 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 ensemble.
Et nous revoilà dans les studios de REM 98.4 pour l'émission Pas d'affolement, nous voilà, en compagnie de Johanna et d'Anaïs, de l'association À Ciel Ouvert.
Et on va commencer par le handball.
Oui, maintenant, il y a Guylain qui veut nous faire part du handball masculin en France.
D'origine allemande, le handball s'impose en France en 1941. Ainsi naît la Fédération Française Autonome, la FFA. Le handball est un sport collectif où deux équipes de 7 joueurs s'affrontent, avec un ballon sur un terrain rectangulaire. Les dimensions sont de 20 mètres par 40 mètres, ou de 19 mètres par 38 mètres, séparés en deux camps. Handball, le nom vient de l'allemand « die Hand », la main, et derbal qui signifie la balle. Prononcé comme en français. Les différents postes de handball. Le gardien de but est le seul joueur qui a le droit de toucher la balle dans sa propre zone. Les ailiers se situent dans les coins du terrain au niveau des corners, le long des lignes de touche. Les arrières latéraux s'occupent de l'arrière. Par contre, l'arrière central ou le demi-centre fait la jonction avec le pivot. La durée d'un match de handball est de 2 fois 30 minutes. La pause à la mi-temps est de 2 minutes. La Coupe du monde de handball réunit tous les 2 ans les élites du monde entier. L'équipe de France appelée les experts est l'histoire d'une équipe qui gagne. La France détient le record des titres. Championne olympique en 2008 et 2012. Championne du monde en 1995. En 2001, 2009 et 2011. En outre, elle est championne d'Europe en 2006, 2010 et 2014. Prochainement, si les choses le permettent, je vous présenterai l'histoire du handball féminin français qui brille aussi de victoire.
Eh oui, Guylain est peut-être à notre écoute, il n'est pas avec nous, mais nous pensons très fort à lui. Comme il nous a fait part de cette passion du handball, nous nous sommes réunis, plusieurs animateurs, pour l'interviewer. C'est ce que nous vous proposons maintenant.
Oui. Guylain, oui. Qui a passion pour le handball.
Oh, une passion, ça a été bref dans ma vie, parce que j'en ai pratiqué en tout 4 ans. Mais j'étais jeune, j'avais 12 ans, j'arrêtais à 16 ans. Quoi.
C'est bien de pratiquer ce sport parce qu'en oui. France, si vous êtes d'un bon niveau, parce que c'est le sport national, quand on a un bon niveau handball, on a un bon niveau dans le monde.
J'aurais pas cette prétention-là, mais
peut-être.
Si vous le dites. Par contre, j'ai le plaisir de voir que ces dernières années, la France est très bien classée. Et je les suis vraiment avec plaisir, quoi. Ça me fait plaisir.
Chez les femmes aussi, je crois, d'ailleurs. C'est hommes et femmes.
Hommes et femmes. Ouais. Ils ont perdu cette année, les hommes, il me semble, dernièrement. Là.
À quel niveau avez-vous joué?
Oh, j'étais en Benjamin et cadet.
La règle d'handball, jeu d'handball, ça a changé par rapport à avant, oui ou non?
Mais ça a toujours été comme ça. En fait, il y a 6 joueurs et un gardien. Vous avez 2 arrières, 2 ailiers, un attaquant et un pivot.
Oh mais je veux dire, le jeu.
Le jeu, oui.
Et ça change, parce qu'avant, quand on marche...
Oui, au niveau du marché, tout ça, oui, il y a des règles. Il ne faut pas reprendre... si vous arrêtez à un moment donné, vous ne pouvez pas reprendre, repartir comme ça. Il faut faire la passe.
Vous êtes équipé pour faire le handball?
Ben, on peut mettre des genouillères éventuellement. Et ça peut être dangereux de recevoir le ballon sur soi.
Ça fait très mal. Allumer le gardien.
Ah, le gardien, il prend tous les risques. Il faut qu'il soit là, présent.
Le ballon est tout petit. Il tient à quoi? Est tout petit? Tout petit, gros. Il tient dans la main. Mais vous mettez toujours de la résine pour maintenir.
Oui, oui,
comment ça. Enlevez-vous cette résine? Moi, c'est la question que je me suis toujours posée. Comment font les joueurs pour l'enlever après?
Ça part avec du sang et de l'eau, tout simplement.
Ah oui. Ouais. Ouais, je pensais que ça allait résister au lavage.
Non. Après, il y a des gens, ils ont des petites mains, c'est pas évident, quoi.
C'est sûr.
Est-ce qu'il y a un champion qui vous a impressionné dans sa carrière?
J'ai eu la chance de rencontrer Richardson. Il jouait au Girondins de Bordeaux.
Je sais pas, mais
si.
En équipe de France.
Premier champion du monde.
Oui, c'est bien.
Alors moi, j'ai eu l'occasion une fois d'assister à un match d'un bon niveau, pas d'un niveau national, mais pas loin. Et j'ai été étonné parce que je m'y attendais pas du tout. C'était en fait d'un sport extrêmement physique et presque violent en termes de contact.
Oui.
J'ai trouvé qu'il y avait énormément de contact physique, aussi bien chez les hommes que les femmes, parce que j'ai vu les deux.
Ouais.
Et je m'attendais pas du tout à ça. Est-ce que dans votre pratique là pendant ces 4 années, est-ce que vous avez été blessé?
Le niveau est vraiment élevé en termes de ce qu'on donne physiquement en fait. Les entraînements sont très difficiles. S'il voit qu'on n'a pas assuré aux entraînements, l'entraîneur ne fait pas jouer. J'ai décidé d'en parler du handball parce que je l'ai fait pendant 4 ans, mais après. Après, je suis plus trop là-dedans, quoi. Et je vous précise que j'ai eu un accident à l'épaule, je ne peux plus pratiquer, en fait.
Eh bien, merci Guylain de votre
je vous remercie bien de
votre passion
reçu,
que vous avez fait partager.
D'accord. Parfait.
Et oui, nous revoilà dans les studios de Radio Entre deux Mers pour l'émission Pas d'affolement, nous voilà. 98.4.
En compagnie d'Anaïs et Johanna, nous allons leur poser des dernières questions. Jean-Louis, vous avez une question à poser à...
Oui. Est-il difficile de trouver des financements pour ce type de projet ?
C'est pas que c'est pas facile, mais effectivement, il faut chercher, puis il faut remplir des dossiers de subvention, et puis il faut être convaincant. Nous, pour ce projet-là, on a été accompagnés financièrement par le conseil départemental de la Gironde, par l'agence du cinéma et du livre, ALCA, par l'hôpital de Cadillac, qui a participé aussi, le GEM Entracte, la mairie, certes, la communauté de communes, et je crois que c'est déjà beaucoup, hein. Je crois que j'oublie personne, si j'en oublie, je m'en excuse, mais je crois que voilà, c'est bon. Donc il faut faire appel à plusieurs partenaires financiers en général.
D'accord. Voilà.
Une fois diffusé, une fois que votre projet sera diffusé, que deviendra-t-il ?
Ah ben ça, c'est une vraie question. Il faut arriver à le faire vivre. Et...
Vous ambitionnez quelque chose sur ce plan-là ?
Ben on aimerait bien qu'il soit vu le plus possible et partagé, et puis que les participants aussi puissent défendre le film auquel ils ont participé, qu'ils ont réalisé avec nous. Il y aura une première projection au Cinéma Luxe. Après, ça serait bien qu'on trouve d'autres lieux de diffusion. Mais vu que c'est des objets un peu particuliers, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des films faits avec des non-acteurs.
Oui, c'est déjà bien.
Il est à visée non commerciale, donc c'est pas du tout l'économie classique du cinéma. Voilà. Donc il faut trouver d'autres espaces, mais on trouvera. Il y a des festivals, appropriés. Voilà.
Quel est le format du film ?
La durée ?
Oui.
Ouais.
Oui, c'est bien ça. Oui.
Je pense qu'il. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pense, Anaïs ?
Alors, c'est vrai que le montage n'a pas été encore fini, environ 45 minutes.
C'est pas mal, c'est pas mal.
Ça semble, ouais.
C'est pas mal. Et c'est où alors qu'il va diffuser ce film ?
En dehors du ciné de luxe, comme elle nous a dit. Il faut qu'il trouve d'autres.
Éventuellement.
Il faut qu'on trouve d'autres lieux de diffusion. Je crois qu'il est prévu qu'il passe au ciné-club de l'hôpital. On aimerait bien, pourquoi pas, le diffuser dans des festivals comme Orgeux-en-Jeu, je ne sais pas si vous connaissez, ou pourquoi pas essayer de faire une diffusion à l'Utopia à Bordeaux. Il y a des petits cinémas aussi indépendants en région à qui on pourrait le proposer. Il faut qu'on s'y penche. On n'a pas encore pensé à la question de la diffusion, même si elle est très importante, parce que c'est encore une histoire de rencontre entre les spectateurs et les gens qui ont participé au film.
Alors justement, vous avez des projets avec d'autres personnes ? Ah oui.
Quel est votre futur ?
Oui, c'est... projet futur ?
C'est une question un peu vaste. Et moi, là, par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler sur un autre projet, plutôt théâtral, à Bergerac, dans un quartier, Jean Moulin. Voilà. Donc ça, c'est mon futur proche. Après, le futur un peu plus lointain, là, je...
Alors moi, mon présent en tout cas, c'est qu'on est en train de réaliser un film pour une association qui s'appelle Espoir 33 et qui accompagne des gens qui sont en situation de maladie psychique. Donc là, je suis en train de faire le montage de ce film. Ensuite, on va s'attaquer au montage du projet à Cadillac. Et puis ensuite, pour la suite, je ne sais pas.
Est-ce que vous avez un web ou une adresse pour les réseaux sociaux ?
Oui, alors... Le site internet de l'association, c'est lesateliersacieluvert.fr. Vous pouvez aller voir ce qu'on a fait. Il y aura une page dédiée au projet de Cadillac.
Merci beaucoup, Azedine. Et avec nous,
merci à vous.
Merci beaucoup. Hein.
Je tiens à faire un big up à mes cousins, parce que c'est mes cousins qui m'ont mis dans le rap. Et big up à mes parents, toute ma famille. Et force.
Ouais. Force à toi aussi. Merci beaucoup. Donc, nous étions sur Radio Entre deux Mers. Pas d'affolement, nous voilà. Au revoir, au revoir.
Au revoir, Jean-Louis. Au revoir tout le monde.
Voilà, à jeudi dans un mois. Et merci en tout cas encore à Johanna et Anaïs. On a fait ce qu'on a pu pour vous détendre.
On était très contents de vous recevoir. On espère vous revoir bientôt, surtout sur les écrans.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour la qualité de votre émission. Et merci de nous accueillir, Radio Entre deux Mers.
Avec
et merci,
plaisir, avec plaisir.
Merci pour vos reportages et vos textes. C'était très beau.
Et rendez-vous merci. Au Festival de Cannes, peut-être.
Ah, mais c'est certain.
Ah oui, avec plaisir.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Pas d'affolement. Voilà. Pas d'affolement.
Voilà.
Pas d'affolement.
Pas d'affolement.